Radio France Internationale, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'information dans Afrique Soir. C'est avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. La campagne électorale s'achève ce soir à Maurice. Dimanche, les électeurs sont conviés aux urnes pour des législatives. Le scrutin se joue entre les deux blocs politiques menés par le Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, et Navin Ragoulam, qui vise un retour au pouvoir. Une journée historique au Botswana pour la première fois depuis l'indépendance. Ce pays d'Afrique australe connaît l'alternance. Douma Boko, le nouveau président, a prêté serment après sa victoire éclatante aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans. Aux Comores, le principal suspect dans le naufrage d'un bateau de migrants arrêté. Des trafiquants avaient coulé l'embarcation. Il y a eu au moins une vingtaine de morts la semaine dernière. Entre les Comores et Mayotte, nous y reviendrons avec Victor Moria. Des tensions politiques au Ghana. À un mois de la présidentielle, le Parlement est de nouveau suspendu pour une durée indéterminée. Enfin, le football en deuil. La radio nationale algérienne annonce la mort de Rachid Mekloufi, légende du foot algérien. La campagne pour les élections législatives à Maurice s'achève donc ce soir. Dimanche, plus d'un million d'électeurs se rendront aux urnes dans les 21 circonscriptions de l'île. La compétition est intense entre les deux grandes coalitions, l'Alliance du Peuple, majorité sortante, face à l'Alliance du Changement. En direct dans ce journal, Abdullah Erali depuis Port-Louis. Bonsoir.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et ce soir, Abdullah, les deux blocs effectuent leur dernière démonstration de force pour rallier les électeurs indécis.
Oui, les deux principales coalitions en liste font un dernier forcing pour mobiliser leurs partisans. Maurice, c'est le théâtre en ce moment de bruyants défilés de voitures et de motos. Une démonstration de force qui anime toutes les grandes agglomérations, tandis que les candidats tiennent leur dernière réunion. Après 6 semaines d'intense campagne, le calme reprendra demain. Cette campagne, faut le dire, a été marquée par des événements sans précédent dans l'histoire démocratique du pays. Après 12 élections législatives, il y a une semaine, les autorités ont coupé les réseaux sociaux, officiellement pour des raisons de sécurité nationale, et cette décision a provoqué une forte indignation. Le pouvoir a finalement fait marche arrière un peu plus de 24 heures. Autre événement inédit, la révélation d'un vaste programme d'écoute téléphonique de journalistes, politiques et figures influentes à Maurice. Un informateur anonyme a diffusé ses enregistrements d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce qui a exposé les ingérences du gouvernement dans des institutions, de la police à la justice, des révélations qui embarrassent la majorité sortante.
Merci Abdullah Erali en direct de Port-Louis où il est 22h passé de 33 minutes comme à Trou d'eau douce. Journée historique au Botswana, ce pays d'Afrique australe connaît pour la première fois depuis son indépendance une alternance politique. Le nouveau président Douma Boko, âgé de 54 ans, issu d'une alliance de partis de gauche, a prêté serment aujourd'hui au stade de Gaborone. Une cérémonie d'investiture après sa victoire éclatante aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, Claire Bargelès.
Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Douma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie pour prêter serment.
Moi, Douma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue et que je m'acquitterai de mes fonctions au haut poste de président de la République du Botswana.
Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie. Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son discours.
Nous sommes devenus, encore une fois, un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche, qui n'est pas simplement une idée abstraite et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais, et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Vous pourrez répondre de vous-même à cela d'ici 5 ans. Et c'est toute la beauté de la démocratie.
Douma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Le Tchad, le président Mahamat Idriss Déby pourrait retirer son pays de la force multilatérale mixte. Elle est composée de 5 pays. Elle est chargée de sécuriser la région du lac Tchad. Le président tchadien déplore le manque de solidarité des pays voisins et notamment du Nigeria dans la lutte contre les groupes djihadistes. Le président tchadien a lancé une contre-offensive dans la zone du lac Tchad 10 jours après une attaque de Boko Haram dans laquelle une quarantaine de militaires tchadiens ont été tués. Alors comment expliquer ce manque de coopération du Nigeria? Écoutez le chercheur au CNRS et spécialiste de Boko Haram, Vincent Fouché.
Ça fait longtemps, hein, c'est que le Tchad est quand même assez frustré de l'engagement et de la performance de l'armée nigériane, hein, et considère qu'au fond, le Nigeria, qui est un peu l'origine du problème, n'est pas assez engagé pour son règlement. Mais il faut dire que le problème, c'est plus une menace existentielle pour le Tchad que pour le Nigeria, cette affaire de Boko Haram. Au fond, pour le Nigeria, c'est un problème qui est un peu contenu dans le coin nord-est du pays, dans les zones rurales enclavées. Pour le Tchad, le problème Boko Haram, il est très embêtant parce que ça menace le nord du Cameroun, dans lequel passe quelque chose qui est vraiment l'aorte, hein, l'artère principale de l'économie tchadienne, puisque c'est là qu'il y a l'accès à la mer du Tchad, il se fait par cette zone-là. Donc pour le Tchad, on est vraiment face à un enjeu vital, et ce qui n'est pas le cas au fond pour les autres pays de la zone. Et donc le Tchad au début était assez prudent, on voulait pas trop s'en mêler. Bon, assez vite en 2015, on a vu le Tchad extrêmement actif dans la lutte contre Boko Haram. Mais c'est vrai que quand on parle des officiels tchadiens, pardon, ils cachent pas leur frustration face au fait que ce problème ne se règle pas.
Vincent Fouché avec Ezra Zikoumana. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir.
Moroni, 103 FM.
Une première arrestation dans l'archipel des Comores dans l'affaire du naufrage d'un Kwasa Kwasa, c'est le nom de ces bateaux utilisés par les candidats à la migration pour rejoindre l'île française de Mayotte. Le drame aurait fait une vingtaine de morts selon les témoignages de rescapés. L'embarcation aurait été coulée par les passeurs. Bonsoir Victor Moria.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et à tous.
Et l'homme arrêté serait à la tête du réseau ayant organisé cette traversée.
Oui, il était même le propriétaire du bateau, explique la gendarmerie d'Anjouan, l'une des îles de l'archipel des Comores. L'homme âgé de 37 ans est un résident maorais de nationalité comorienne. Il serait passé aux aveux et aurait reconnu avoir acheté tout le nécessaire pour le voyage. Il risque 10 ans de prison pour appartenance à un groupe criminel organisé, 3 ans pour transport illégal de passagers et peut-être plus, puisque vous l'avez rappelé Sylvie, l'un des rescapés du naufrage a directement pointé la responsabilité des passeurs dans le drame. Selon son témoignage, les passeurs auraient sciemment coulé le Kwasa Kwasa avant de prendre la fuite en hors-bord. Des accusations qui pourrait rendre responsable l'homme arrêté ce vendredi de multiples homicides, 17 selon la police comorienne pour le moment, 25 selon l'Organisation internationale pour la migration qui a divulgué les témoignages et soigné les rescapés. L'enquête se poursuit à 7h, notamment pour retrouver les deux passeurs présents sur le hors-bord. Ils sont identifiés et activement recherchés, explique la gendarmerie comorienne.
Victor Moria. Un mois de la présidentielle, des crispations au Ghana. Le Parlement a de nouveau été suspendu pour une durée indéterminée. Le fichier électoral, quant à lui, est toujours contesté par le principal parti d'opposition. À Accra, Victor Cariou.
Un blocage critique et inédit de par les circonstances. Voici comment Sami Obeng, directeur du Parliamentary Network Africa, a décrit la situation en cours après le nouvel ajournement du Parlement. Contacté par RFI, le spécialiste de la vie parlementaire ghanéenne a notamment pointé deux risques majeurs, l'impossibilité d'adopter le budget 2025, mais également l'aggravation des tensions entre les deux principaux partis politiques à seulement un mois de l'élection présidentielle. À l'origine de cet ajournement, le refus des députés du nouveau parti patriotique de siéger au Parlement, ce tant que le speaker Alban Bagbin n'aura pas rétabli les sièges des 4 parlementaires qu'il a précédemment déclarés vacants. L'autre problème en cours concerne le fichier électoral, une nouvelle fois refusé par le Congrès démocratique national, un veto de dernière minute maintenu tant que, je cite, « le NDC n'aura pas toutes les informations demandées ». Pas de quoi cependant mettre en péril le bon déroulé du scrutin, a assuré à RFI la commission électorale. Victor Cariou, Accra, RFI.
La commission électorale indépendante ivoirienne prolonge d'une semaine la période de recensement électoral initialement prévue jusqu'au 10 novembre. Ce recensement vise à étendre le corps électoral qui ne compte que 8 millions d'inscrits sur 12 500 000 de citoyens en âge de voter. La période était jugée trop courte par l'opposition. La CEI, la commission électorale, prolonge donc jusqu'au 17 novembre. En Afrique, quand on parle du sentiment anti-français, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour le comprendre, le réseau pro-démocratie tournons la page. Et le Centre de recherche international de Sciences Po, le CERI, ont interrogé plus de 500 militants de la société civile dans 6 pays, le Niger, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Et l'étude issue de ces entretiens est parue cette semaine. Dan Sanaren, l'un de ses auteurs, était l'invité d'Afrique Midi. Nicolas Sûr lui a demandé ce qu'il pensait de l'expression de sentiments anti-français.
Oui, absolument. Donc, c'est un rejet qui est massif. L'expression n'est pas employée en Afrique. En effet, elle est perçue comme quelque chose qui est injustement vu comme émotionnel et irrationnel. Alors que, en effet, il ne s'agit pas d'une remise en cause des citoyens français, des Français, mais il s'agit d'une critique de l'État et des décideurs et de la politique française en Afrique, qui est bien ancrée dans des situations très contemporaines. Donc, c'est un terme qui mobilise et qui renvoie de manière assez implicite à un racisme anti-français en Afrique, tout en donc minimisant la critique de l'ex-puissance coloniale, ce qui est donc complètement rejeté par ces militants pro-démocratie, militants pro-droits humains, avec d'autant plus d'injustices vécues par eux, comme ils suivent souvent la politique interne de la France et donc voient d'un côté la montée des extrêmes en Europe, en France aussi, mais également donc la perception d'un racisme dont ils ont été pour certains aussi témoins eux-mêmes quand ils étaient en France. Donc voilà, c'est pour ça que cette expression de sentiment anti-français est absolument rejetée.
La France peut-elle changer de politique africaine? Pour reprendre le titre, l'un de vos chapitres, qu'est-ce qu'en disent vos interlocuteurs?
Alors, peut-elle, elle le devra dans tous les cas, puisque depuis quelques années, ce rejet est massif, avec, on a vu le désengagement de la France dans plusieurs pays, et un changement s'impose dans tous les cas, et un changement qui doit s'opérer notamment, et ce que revendiquent les militants, c'est par l'écoute, par la capacité à prendre des critiques, et donc avec humilité. Ce qui ressortait beaucoup de cette étude-là, c'est que finalement, il y a l'idée que la France doit se départir de la posture où elle se considère soi-même comme ayant une vocation africaine. Elle doit se mettre en retrait en acceptant que finalement, elle sera un partenaire parmi d'autres et que dans certains cas, l'histoire de l'Afrique puisse aussi s'écrire sans la France. Et on revendique quelque chose d'assez important, une cohérence dans sa politique étrangère, c'est-à-dire qu'on demande, si on veut se présenter comme le pays des droits de l'homme, de la démocratie, qu'on mette ça en avant de manière cohérente, qu'on mette la démocratie, les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère et qu'on n'en dévie pas en fonction des différents régimes ou dirigeants amis ou non-amis.
Dan Sanaren, entretien retrouvé sur notre site internet www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. On change de continent, on part en Chine, à Shanghai. La foire internationale de l'importation se tient jusqu'à dimanche. La zone d'exposition des produits alimentaires a fait de la place pour permettre aux pays africains de présenter une large gamme de produits agricoles. Le Bénin était l'invité d'honneur lors de la précédente édition et cette année, sa présence à Shanghai confirme l'intérêt du marché chinois pour les produits du pays. Cléa Broderst.
Au pavillon du Bénin, on trouve le produit phare, l'ananas pain de sucre, mais également la noix de cajou, du miel, de la karité ou du soja. Abdelaziz Bouraïma en charge de la promotion des exportations à l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin.
Les consommateurs chinois sont relativement friands de produits tropicaux tels que les nôtres. La demande est extrêmement importante. Ça représente une opportunité intéressante pour nous.
Les nouvelles routes de la soie commencent à atteindre le pays et avec elles, les Green Lanes, la simplification des procédures douanières visant à améliorer l'efficacité commerciale entre la Chine et les pays africains.
Les facilitations dans les procédures d'exportation vers la Chine, c'est un sujet qui est constant. On va dire qu'aujourd'hui, la Chine fait partie des pays vers lesquels nous exportons. Nous avons notamment un certain nombre d'accords préférentiels pour certains produits d'exportation, notamment l'ananas dont je parlais et le soja.
Aujourd'hui, aucun doute, la Chine est l'un des marchés les plus prometteurs pour le Bénin.
Question de taille déjà, de proportion. Mais évidemment, le marché chinois a la particularité, en comparaison aux autres marchés européens notamment, d'être également un marché extrêmement rémunérateur, mais un marché très demandeur. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment en train d'essayer de dynamiser nos exportations vers la Chine.
Pour Abdelaziz Bouraïma, si les relations historiques avec certains marchés vont perdurer, la Chine est toutefois devenue une cible prioritaire. Claire Broderst, Shanghai, RFI.
19h45 ici à Paris, le foot algérien en deuil. La radio nationale algérienne a annoncé ce soir la mort de Rachid Mekloufi, légende du football algérien. Il avait 88 ans. Bonsoir Frédéric Sutton.
Bonsoir Sylvie.
Rachid Mekloufi, symbole au tournant des années 60 de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie.
Oui, Rachid Mekloufi qui n'avait que 18 ans quand les recruteurs de l'AS Saint-Étienne l'ont repéré et sont venus le convaincre à Sétif de quitter sa terre natale. Il a rejoint les Verts alors que débutait la guerre d'Algérie. Il est devenu l'un des joueurs majeurs du championnat de France. Hein, des buts, beaucoup de buts, des titres avec Saint-Etienne, des premières sélections en équipe de France. La voie de Rachid Mekloufi, buteur et magicien sur le terrain, était toute tracée. Une carrière dorée l'attendait. Mais au printemps 1958, il a quitté soudainement la France avec d'autres joueurs venant d'autres clubs pour rejoindre l'équipe mise sur pied par le Front de Libération Nationale. Cette équipe du FLN a alors sillonné le monde pendant 4 ans en disputant des matchs de gala en Asie, en Europe de l'Est, un moyen pacifique de promouvoir alors la cause de l'indépendance de l'Algérie pendant que la guerre faisait rage. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance, l'équipe du FLN se dissout et Rachid Mekloufi, héros de tout un peuple, devenu international algérien, finit par revenir à Saint-Étienne. Il marquera en 1968 les deux buts de la finale de la Coupe de France remportée par les Verts.
Merci pour cet hommage Frédéric Sutton. Le foot encore, demain commence au Maroc la 4e édition de la Ligue féminine des champions. Les organisateurs espèrent attirer un maximum de spectateurs mais surtout de spectatrices car il y a eu une campagne qui a été lancée en ligne pour dissuader les femmes de se rendre au stade. Son slogan « Non aux femmes en tribune, garde ta sœur à la maison ». Une initiative très critiquée par les organisations de défense des droits des femmes. Et elle n'impressionne pas cette initiative. Ses supportrices de la sélection nationale féminine récemment rassemblée à Casablanca. C'est un reportage de Mathias Reynal.
Ce soir-là, les Lionnes de l'Atlas affrontent la Tanzanie en match amical. Et devant l'entrée du stade, la campagne contre les femmes fait réagir.
Non, on est contre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On va continuer à aller au stade. Impossible de ne pas y aller, surtout pour moi.
Sarah, 16 ans, ne rate pas un match du Wydad. Elle va régulièrement supporter son équipe favorite.
Même si des fois il y a du harcèlement, par exemple des gars peuvent te déranger. Pour éviter ça, je prends un ticket en tribune latérale à 250 dirhams. Là, tu peux regarder le match dans de très bonnes conditions.
Jamila, la quarantaine, est venue supporter sa cousine qui joue en équipe nationale.
Regarder un match dans un stade, c'est mieux qu'à la télévision ou à la maison. Moi, j'aime beaucoup venir ici. N'importe quelle femme peut le faire, c'est son droit. C'est un bon endroit, accessible à tous, c'est sécurisé. Il y a les forces de l'ordre.
Cette campagne virale est à rebours des changements constatés ces dernières années au Maroc, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les stades, notamment depuis l'épopée de la sélection à la Coupe du Monde 2022. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
La montée du niveau des eaux des grands lacs d'Afrique de l'Est est alarmante. L'île d'Oukwe-Rewe sur le lac Victoria au nord de la Tanzanie constitue la plus grande zone île lacustre d'Afrique. Sa population vit essentiellement de la pêche et elle voit sa vie chamboulée par la montée des eaux du lac. C'est le premier épisode de la série de 3 reportages signés Elodie Goulesque.
Depuis la plage de Nansio sur les Dokerewe, la vue matinale du lac Victoria semble idyllique. Il suffit pourtant d'un simple regard pour observer plusieurs arbres engloutis par les eaux ici et là. Pascal est guide touristique et originaire de l'île. Il a vu le lac changer ces 5 dernières années.
Je me souviens, par là-bas, il y avait un grand arbre où on avait l'habitude de s'asseoir et manger. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, car il n'y a plus d'arbres, plus d'ombre à cause de la montée des eaux.
Un peu plus loin, Faustin pointe du doigt un large morceau de plage où des vaches paissent, le corps à moitié submergé dans l'eau. C'est ici que se trouvait la rizière de son père quand il était enfant.
Il y a peut-être d'autres raisons, mais de ce que je vois, tout ça c'est à cause de la pluie. Les gens ne peuvent plus cultiver car il n'y a pas assez de pluie. Et quand il pleut, toute la zone est inondée.
La pluie fait effectivement partie des raisons expliquant la montée des eaux du lac. Même si moins fréquents qu'avant, les épisodes pluvieux directs, ainsi que ceux qui alimentent la vingtaine de cours d'eau qui se jettent dans le lac, sont désormais plus intenses. Des changements climatiques qui, au-delà de transformer les paysages, affecte de plus en plus les populations les plus vulnérables de l'île, comme l'explique Joyce Komania de l'organisation Centre juridique et des droits de l'homme à Dar es Salaam.
Les hommes ont beaucoup émigré vers d'autres endroits, donc les femmes sont abandonnées avec les enfants sans ressources. Nous avons aussi noté beaucoup d'abus sur les enfants et une baisse du taux de présence dans les écoles, car même les enfants sont forcés de travailler pour soutenir la famille.
Le long de la plage, John Ngaile marche sur des pierres englouties. Ce sont les restes de sa maison.
J'ai vécu 15 ans ici et j'ai essayé de construire un mur pour éviter que l'eau ne rentre. Mais elle a finalement tout emporté. Ça m'a complètement changé. Je suis désormais très pauvre.
Avec sa maison, il a aussi perdu ses revenus puisqu'il louait des chambres. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivent dans le bassin du lac Victoria et sont menacées par la montée des eaux. Élodie Goulès, au Kerewe RFI.
Et les effets du changement climatique, on en parle dans quelques instants sur RFI. Dans Pourquoi RFI dit ça ? Nous sommes à quelques jours de la COP29. Ce sera à partir du 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Comment et pourquoi en parler de ces effets du changement climatique ? Réponse de Simon Rosé, le chef du service environnement d'RFI.
Sur RFI, en tant que média public, je pense qu'on a un rôle, particulièrement en Afrique, où on est principalement écouté, où les conséquences sur les sols, sur les événements extrêmes, sur les vagues de chaleur, sur l'aridification du continent sont connues, sont encore une fois documentées. 2 degrés de réchauffement climatique à horizon 2100, c'est une terre où les conditions de température, d'humidité rendent invivable l'endroit où vivent aujourd'hui 2 milliards de personnes.
Pourquoi RFI dit ça ? C'est à partir de 19h40 en universel. À suivre également ce soir, Couleur tropicale, avec un hommage à une légende de la musique, un monument, Quincy Jones, qui a débuté sa carrière au début des années 50 dans le jazz. Il a collaboré avec les plus grands. Le musicien, producteur, arrangeur américain est mort dimanche à Los Angeles. Il avait 91 ans. On écoute un extrait d'Ai No Corrida. Ai No Corrida, un titre sorti en 1980, signé Quincy Jones, une chanson écrite. Et ne manquez pas surtout demain sur RFI l'émission L'épopée des musiques noires de Joe Farmer à 14h30 heure de Paris. Hommage à Quincy Jones, là aussi, et vous l'entendrez longuement au micro de Joe Farmer. Une interview réalisée au Festival de Jazz de Montreux en 2017. Musique encore, et c'est sans doute la plus belle voix du jazz tchadien depuis bientôt 30 ans et ses débuts dans le légendaire groupe d'afro-rock Tibesti. Abdoulaye Nberget mêle les chants traditionnels de son pays aux sonorités du jazz moderne. Après le succès de L'âme du blues coédité par RFI Talent, c'était en 2022, il a présenté sa nouvelle formation Abdoulaye Band, composée à moitié pour des musiciens français, de l'autre par des musiciens tchadiens, sur la scène de l'Institut français de N'Djamena. Carole Valade.
J'ai commencé à chanter très petit, donc j'aime chanter tout ce que j'écoute et j'ai tout, pratiquement tout chanté. Et c'est à partir de là que j'ai dit, il y a une possibilité de sortir une musique, un style de chant typique du Tchad et le présenter au monde.
Comment ça?
Le blues gourand qui est très 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 apparenté au blues américain. Et quand ça se chante, c'est donc c'est très proche du blues américain et c'est pas connu. Et même le style de chant de deuil du Tchad, qu'on appelle le chant de deuil des cantatrices go. Ça, c'est aussi le chant du Sud, mais c'est des chants de deuil. Et j'ai dit, c'est des choses qui ne sont pas connues du Tchad.
Donc, vous avez fait un vrai travail d'archéologie musicale, en fait.
Exact. En écoutant les autres frères, les Maliens, les Sénégalais, ils sont partis puiser dans le répertoire ancestral et on doit promouvoir ça pour qu'on puisse reconnaître au Tchad aussi des valeurs artistiques.
C'est quoi votre conseil justement aux jeunes musiciens tchadiens?
Aux jeunes musiciens tchadiens, il faut chercher l'originalité. Ici, je crois qu'il y a une tendance à la facilité, à la musique virtuelle. Donc informatique, rapidement, on fait 2 bits, 3 bits, hein. On copie le Nigeria, on copie le Cameroun, on copie le Congo, et ça se met sur le marché. Je crois que c'est une destruction. C'est une destruction du métier, de l'artiste, de l'instrumentiste, et puis aussi de notre culture un peu. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un rond et on le mettait dans un carré. Ça peut entrer, mais ça laisse des trous.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour la musique tchadienne?
Le primordial, c'est l'État, et si l'État ne fait pas un effort, je crois que ça, on va à contre-courant, c'est pas bon. La culture, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un pays. C'est ce qui apporte une lumière fleurie. C'est ce qui donne envie de visiter un pays. C'est la culture. Si on ne veut pas mettre la culture en avant, on va toujours rester dans le noir.
وكلنا كلا من جينا جمينا جمينا مدينة حنونا وتربي لا تما تربي لا تما جدودنا خلوا لنا ورسا الورسا خلوا لنا دا وصحافة من شمال لجنوب من سبع للخريب وكلنا كل من جينا جمينا جمينا مدينة حنونة وتشرى بالأتما يا مرا
Abdoulaye Nberget, la plus belle voix du jazz tchadien. C'était un reportage de Carole Valade. Merci de nous avoir suivis à la réalisation ce soir, Alice Ménard. Et puis, restez à l'écoute de la Radio du Monde. Adrien Delgrange vous attend pour vous présenter le journal de 20h, heure de Paris. Bonne soirée à vous.
Un jour au village, Pénaï Traoré.
Le téléphone portable et les plateformes numériques sont devenus des outils indispensables dans notre quotidien. Ils sont utilisés par les agriculteurs pour vendre leurs produits via les réseaux sociaux comme TikTok. Vous entendrez le témoignage d'un jeune maraîcher béninois dans ce nouveau rendez-vous sur le monde rural.
Un jour au village avec Pénaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Vietnamien, français, arabe, pidgin, anglais, lingala, suisse, allemand, yoruba. Cette semaine, on va chanter dans toutes ces langues, dans BPM, et tous les sons, sans façon, de Quincy Jones à Myriam Makeba et de Manifest à Faye Baba, y seront en bonne position.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.